Alors, je vais donc vous présenter ce livre, essayer de vous donner envie de le lire, vous dire pour commencer quelques mots sur Huysmans, et ensuite je vous lirai un certain nombre de passages en les articulant à une réflexion. Donc, Huysmans a vécu de 1847 à 1907. Il est exactement de la même génération que Léon Blois, qui fut son ami et aussi son ennemi. Il a une carrière d'écrivain que d'habitude l'on coupe en deux morceaux, mais c'est extrêmement artificiel. Il a d'abord fait partie de l'école naturaliste, il a été un disciple de Zola et de ce que l'on appelle le groupe de Médan, Médan étant le nom de la petite bourgade qu'habitait Zola, où il y a maintenant un musée Zola sur la Seine. Et ensuite, il est devenu une sorte de chef de file de l'école symboliste et décadente. Et cela s'est terminé par une conversion au catholicisme. Et donc, toute la fin de son œuvre parle effectivement de questions religieuses. Bon, ceci dit, ces coupures sont extrêmement artificielles, puisque d'un bout à l'autre de l'œuvre, on trouve la même écriture originale, les mêmes effets de style, le même humour, parce qu'il y a beaucoup d'humour chez Huysmans. Et lui-même n'a cessé de souligner qu'il y avait une continuité dans cette œuvre. D'ailleurs, je vous en donnerai quelques exemples. Alors, ces œuvres du début, donc de l'époque naturaliste, je vous cite quelques titres. Marthe, histoire d'une fille, en précisant que fille, dans la langue du XIXe siècle, veut dire prostituée. Les sœurs Vatar, etc. Donc, tout un ensemble de courts romans. Ou de longues nouvelles hein, qui traitent de personnages relevant en général des classes basses de la société. Alors il y en a un qui est très drôle, qui s'appelle Avolo. Huysmans aime bien les titres sous forme de locutions adverbiales, qui racontent les tribulations d'un héros qui est en fait bien sûr Huysmans lui-même, célibataire endurci comme le fut Huysmans toute sa vie, qui cherche désespérément à trouver une gargote convenable dans le quartier du 6e arrondissement de Paris, qui n'était pas le quartier des Bobos à l'époque, qui était un quartier de couvent et assez misérable d'ailleurs par ailleurs. Et donc il a extrêmement de mal à trouver quelque chose d'à peu près convenable à manger, et tout le roman raconte ces divagations du personnage de restaurant en restaurant et de gargote en gargote. En 87, il y a l'essentiel. En 84, la publication de À rebours, qui est le roman le plus célèbre de Huysmans, alors qui lui se transpose dans un tout autre milieu, puisqu'il nous décrit un aristocrate décadent, qui s'appelle Des Essaintes, dont le nom reparaîtra chez Mallarmé dans un poème. Et qui est un extravagant absolu, qui est un névrosé, qui collectionne toutes sortes de choses invraisemblables, et qui en même temps souffre d'une sorte de malaise d'âme permanent. Et la publication d'À rebours donc signera la rupture avec Zola, qui envoie à Huysmans une lettre désespérée, enfin, montrant qu'il n'est plus question de faire partie du groupe naturaliste, et en revanche lui vaudra l'amitié de Blois, de Mallarmé, de gens bien plus intéressants que Zola, et qui seront autour de lui dans la suite de sa carrière. Alors je mentionne En rade, qui est un roman que j'aime bien, qui est apparu en 1887, qui est une très curieuse élucubration, un roman coupé par trois rêves très étranges, enfin un roman d'une modernité tout à fait étrange pour la composition. Et nous arrivons, à partir de 1891, à la série des romans qui vont vers la conversion ou qui sont des échos de la conversion. Il y en aura quatre dont le héros porte le même nom, même si Huysmans n'en a pas fait un cycle. Le héros s'appelle Durtal. Alors il faut savoir que Huysmans allait très souvent chercher les noms de ses héros dans l'indicateur Chais, qui était l'indicateur des chemins de fer. Il trouvait des noms de bourgades. En fait, c'est parfaitement logique. La plupart des noms français sont des noms des toponymes. Donc, il donnait à ses personnages des noms de petites villes ou de villages. Et Durtal est une petite ville qui se trouve dans la Sarthe. Donc Durtal, qui est bien sûr encore un double de Huysmans, va évoluer de là-bas à En route, puis à la cathédrale, puis à l'Oblat, qui sont les quatre romans où il apparaît. Donc là-bas en 91, En route en 95, la cathédrale en 98 et l'Oblat en 1903. Entre-temps, chose tout à fait importante, à Noël 90, Huysmans, qui est né dans une famille catholique, qui a été baptisé, mais qui a complètement lâché les questions religieuses, surtout quand il faisait partie du groupe naturaliste, assiste à des vêpres dans une toute petite chapelle qui a disparu aujourd'hui dans un quartier très misérable de Paris, rue de l'Èbre, qui est une rue qui a été remplacée par des constructions très modernes dans le quartier de la Glacière. Et il est absolument émerveillé d'entendre chanter les Vêpres de Noël, coïncidence avec Claudel, ce sera aussi les Vêpres de Noël, dans un petit couvent misérable. La même année, 90, il est emmené par un prêtre assez suspect qu'il avait rencontré, qui s'appelle l'abbé Boulan, plutôt l'ex-abbé Boulan, au sanctuaire de la Salette, qui se trouve entre Grenoble et Gap, où a eu lieu en 1846 une apparition de la Vierge, extrêmement importante pour toute cette génération. Et on sait, parce que la cathédrale le révèle, et qu'il y a également un autre livre qui le révèle, que c'est là qu'il s'est véritablement converti. C'est-à-dire qu'il y a eu une conversion mariale, une conversion tout à fait intérieure, évidemment, hein, sans panache particulier, mais on sait très bien que c'est là que le choc s'est produit. Alors là-bas est un roman assez redoutable, hein, c'est un roman où le personnage, justement, ça a toujours été très curieux de toutes sortes de choses, s'initie au satanisme. Et à l'intérieur de là-bas, il y a même une messe noire qui est décrite. Et on pense que Huysmans a effectivement assisté à une cérémonie de ce genre. Dans En route, nous retrouvons Durtal, qui, cette fois-ci, va faire une retraite dans un monastère de trappistes, donc particulièrement dur du point de vue de la règle. Et à la fin de cette expérience, il sort de ce monastère en disant qu'il se sent encore trop homme de lettres pour faire un moine et pourtant déjà trop religieux pour rester parmi les gens de lettres. Et ça, c'est là le dilemme, hein, qui va le poursuivre. Le héros est toujours, dans cette série de quatre romans, un écrivain. Ça, c'est très important et ça prouve bien que c'est un double de Huysmans lui-même. Donc, nous allons retrouver ce Durtal dans la cathédrale. Donc, il est sorti de sa trappe. Et il ne sait pas trop quoi faire de lui-même. Et il va donc, sur l'invitation d'un prêtre de ses amis, s'installer à Chartres. Le prêtre essaie de l'attirer parce qu'il a très bien compris qu'il avait affaire à un homme très cultivé, à un artiste, à quelqu'un qui s'intéresse à l'art. Et il a très bien compris que par le biais de la cathédrale de Chartres, il y avait quelque chance de le faire progresser et même peut-être de le faire entrer dans un monastère. Enfin, dans l'Oblat, autre monastère, puisque nous retrouvons Durtal à Dijon, enfin près de Dijon, dans un monastère qui se trouve près de Dijon. Et quasiment tout le roman est consacré au chant grégorien que le personnage écoute avec bonheur. Et ça se terminera, comme ça s'est terminé d'ailleurs dans la réalité, par les lois de séparation et l'exil des moines en Belgique. Or, Huysmans, le vrai, si je puis dire, à cette époque, était à la retraite. D'ailleurs, c'est la cathédrale qui l'a fait mettre à la retraite. Les francs-maçons l'ont fait mettre à la retraite. Il était fonctionnaire au ministère de l'Intérieur. Et il est allé s'installer, effectivement, non pas près de Dijon, mais à Ligugé, à l'abbaye de Ligugé, non pas comme moine, mais comme oblat, c'est-à-dire avec des vœux partiels, si vous voulez, une assistance partielle également aux offices et l'autorisation de vivre en dehors de la clôture. Donc, pouvoir continuer son œuvre d'artiste. Et malheureusement, ça s'est très vite interrompu, puisque les moines de Ligugé ont eux aussi dû partir. Donc, Huysmans s'est retrouvé à Paris et a fini son existence à Paris avec une mort très symbolique, hein, et très caractéristique. Depuis le début du XXe siècle, en fait, il avait un cancer de la gorge. Huysmans était un terrible fumeur. Et il a eu un cancer de la gorge et de la mâchoire tout à fait redoutable, extrêmement douloureux. Et il est mort véritablement en pénitent. Enfin, on peut dire qu'il a expié dans son corps, hein, dans sa souffrance, ce qu'il estimait être une vie pécamineuse. Bien, alors je vais vous parler tout d'abord un petit contexte, si vous voulez, de la publication de la cathédrale. Ensuite, j'insisterai sur la question du symbole, qui est absolument fondamentale, parce que la cathédrale, c'est quand même, moi je dirais que c'est la fin du mouvement symboliste, hein, c'est le couronnement et la fin du mouvement symboliste, c'est-à-dire que c'est le retour du symbolisme littéraire au symbolisme religieux, qui en était également l'origine. Donc après une sorte de cycle, si vous voulez. Et enfin, et bien j'essaierai de trouver le sens spirituel du roman, qui n'est pas difficile à voir, pour peu qu'on le lise avec attention. Donc, dès 1893, c'est-à-dire peu de temps après la publication de là-bas, Huysmans a l'intention de faire un roman, il estime que Là-bas est un roman noir, ce qu'il est effectivement, et il veut faire un roman blanc qui parle sereinement des questions religieuses et qui soit véritablement un roman d'après la conversion. Alors en fait, ce roman, qui s'appelle Là-haut, il existe, ça n'est pas la cathédrale, ça n'est pas En route non plus. C'est un texte qui s'appelle Là-haut, donc on a très longtemps cru perdu, puisque Huysmans avait demandé, il ne l'a jamais publié, il a demandé qu'il fût détruit à sa mort. Or, Huysmans avait l'habitude de faire plusieurs manuscrits, il recopiait plusieurs fois ses manuscrits, et un manuscrit a été retrouvé dans les années 60 par un bibliophile qui a donc fait publier ce texte. Et c'est par ce texte de Là-haut, qui est une véritable confession, où apparaît encore Durtal d'ailleurs, que l'on sait que c'est à la Salette que Huysmans s'est converti. Ça se passe à la Salette, et là on a véritablement des détails tout à fait autobiographiques. Donc, immédiatement après la publication de Là-bas, et alors qu'il est en train de s'occuper d'En route, Huysmans commence vraiment à s'intéresser à la cathédrale de Chartres. Voilà donc ce qu'il écrit à un de ses amis en décembre 93, juste après Noël. « Ici, rien de neuf, sinon que j'ai découvert la plus exquise cathédrale du Moyen-Âge qui soit, à Chartres, une église blonde, maigre, aux yeux bleus. Le dernier effort du gothique, se décharnant, ne voulant plus ni chair ni eau, voulant s'éthériser, filer en âme au ciel. Une merveille, avec sa couleur blonde de pierre, ses anciens vitraux, où d'étranges figures se détachent sur des fonds de saphir. Je suis amoureux de cette basilique, où sont sculptées d'ailleurs les plus belles figures du Moyen-Âge. » Donc, il finit En route, il publie En route. À sa grande surprise, En route a du succès. Un roman de conversion a du succès à une époque où on est quand même sous la Troisième République et où l'animosité à l'égard du catholicisme se fait de plus en plus vive. Et Huysmans continue de travailler à sa cathédrale. Donc voilà ce qu'il écrit. Je cite beaucoup de correspondances inédites dans cette préface parce qu'elle est très, très éclairante. « Je rentre pour me replonger dans un énorme travail pour lequel j'ai déjà entassé bien des matériaux. Je voudrais compléter En route par une étude sur la peinture religieuse et les cathédrales, faire les primitifs et donner toute la symbolique des couleurs. Ce n'est pas peu de choses comme vous voyez, mais il me semble que ce serait faire œuvre utile. » Les architectes et les archéologues ne font en somme dans leurs écrits techniques que le corps des cathédrales, et il faudrait maintenant en montrer l'âme. Une citation très importante. Bon, d'abord, les matériaux. Il fait la cathédrale comme un écrivain naturaliste, c'est-à-dire qu'il va chercher les matériaux. Les matériaux, ce sont les ouvrages modernes, pour son époque bien sûr, qui ont été écrits sur la cathédrale. Il a lu, il s'est fait prêter ou donner les ouvrages d'époque, celui de l'abbé Bulteau en particulier. Et il va utiliser ce matériau. Il y a tout un côté recueil de matériaux, quelquefois un peu fastidieux d'ailleurs, hein, parce que vraiment il accumule ces matériaux, et il va aussi chercher des matériaux beaucoup plus anciens, puisqu'il envoie à la Bibliothèque nationale, il travaille encore à l'époque, donc il n'a pas le temps d'y aller lui-même, et il envoie un jeune homme prendre des notes sur des auteurs médiévaux, et il fait également travailler trois moines de Solesme qui lui donnent des indications sur la symbolique du bestiaire en particulier, sur la symbolique végétale, notamment dans cette extraordinaire anthologie qui a été faite par Dom Pitra. Dom Pitra, c'était un abbé de Solesme qui est devenu cardinal par la suite, et qui a publié au XIXe siècle une énorme œuvre en cinq volumes, tout en latin, qui s'appelle le Spicilegium Solesmense, le spicilège de Solesme. Un spicilège, c'est une boîte à épices, une boîte dans laquelle on met des épices précieuses. Donc là, ce sont des textes précieux recueillis chez les pères de l'Église et qui tous traitent de symbolique. Donc c'était une mine pour Huysmans. Il en a fait recopier des passages par les moines et il est allé lui-même, le dernier été avant la publication, à Solesme, vérifier un certain nombre de choses. N'empêche que, comme il a reçu des notes manuscrites, il a quelquefois mal lu les noms et j'ai dû recorriger un certain nombre de noms qui n'avaient jamais été corrigés dans les éditions intermédiaires. J'ai essayé de savoir à chaque fois de quoi il était question. Il y avait un certain nombre de personnages que je ne retrouvais pas parce qu'il y avait des fautes dans les noms. Et ces fautes étaient là depuis l'origine parce qu'elles avaient été mal recopiées à partir de notes manuscrites. Donc il y a vraiment tout un travail d'érudition, de matériaux, hein, qui est quelque chose de tout à fait important. Alors quand il dit qu'il veut faire une étude sur la peinture religieuse et les cathédrales, ça n'est pas complètement faux, il est essentiellement question d'une cathédrale, celle de Chartres, qu'il estime supérieure à toutes les autres, mais il y a également l'insertion dans un chapitre de la cathédrale d'une longue étude sur Fra Angelico, qui traite effectivement de la symbolique des couleurs dans le couronnement de la Vierge de Fra Angelico, qui se trouve au Louvre. Et il est question d'un certain nombre d'autres peintres, dont Huysmans avait d'ailleurs déjà parlé dans En route. Et l'idée de faire œuvre utile, c'est également une chose importante. Il faut vous replacer dans le cadre de l'époque. Il n'y a pas beaucoup de tourisme à l'époque. Les gens ne viennent pas à Chartres faire du tourisme. Seuls les gens qui s'intéressent à la question y viennent. Et ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est la question du symbolisme religieux sur laquelle on va insister tout à l'heure. Je pense que les catholiques de l'époque ne sont pas informés de cette question. En fait, le catholicisme de l'époque, Huysmans le vitupère assez lourdement au début d'En route, et puis un petit peu partout ailleurs, est un catholicisme très jansénisant, très moral, pardon, cher ami, j'ai dit jansénisant, hein, j'ai pas dit janséniste, hein, très moralisant, et qui repose sur une prédication que les écrivains d'ailleurs de l'époque s'accordent à trouver extrêmement médiocre, qui est une prédication de type défensif, en fait. Hein. C'est toujours des sermons à allure politique. Il s'agit de se défendre, hein, contre la République qui assiège l'Église de tous côtés. Donc, pas vraiment de travail spirituel en profondeur, et surtout pas de ce travail symbolique qui consiste à expliquer l'Ancien Testament en vue du Nouveau Testament. Alors, il n'est pas non plus, ça, je dis juste un mot là-dessus, il n'est pas le premier à écrire sur les cathédrales, il a bien le sentiment de s'insérer dans une tradition, mais dans une tradition qu'il veut renouveler de fond en comble. Alors la tradition, il y a évidemment Chateaubriand à l'origine, avec Le génie du christianisme, qui est un livre évidemment fondamental, auquel Huysmans reprendra la symbolique de la forêt, hein, la cathédrale comme une forêt, qui vient d'ailleurs de Goethe, hein, Chateaubriand ne l'a pas inventé, et sans doute d'avant. Il y a aussi Victor Hugo, bien sûr, avec Notre-Dame de Paris. Mais vous savez que Notre-Dame de Paris, de Victor Hugo, a une visée sociale, en fait. Hein. La cathédrale devient en quelque sorte le lieu du peuple, hein, l'âme du peuple. Et sa Huysmans réagit, bien sûr, contre cela. Il y a le gothique, qui est ressuscité, en quelque sorte, par la décadence, hein, la cathédrale monstrueuse, hein, la cathédrale labyrinthique, qui existe aussi à cette époque. Et puis, il y a les archéologues, les historiens, il y a Michelet, bien sûr. Tous ces écrivains, je n'ai pas le temps de développer ici, sont des gens à qui Huysmans répond dans sa cathédrale, justement, en prétendant en montrer l'âme. Or, justement, qu'est-ce que c'est que l'âme de cette cathédrale ? Alors, comment s'y prend-il ? Je vous cite encore un passage d'une lettre. Il y a pour 2 ou 3 ans de travail. C'est un des romans qui lui a pris le plus de temps et dont il était le plus mécontent d'ailleurs, parce qu'il avait l'impression à la fin de ne pas avoir réussi à surmonter son énorme documentation. D'ailleurs, il y a 1 ou 2 chapitres effectivement vers la fin qui sont un petit peu pesants à cause de cela. On a vraiment l'impression d'une énumération d'équations symboliques en fait. Il y en a pour 2 ou 3 ans de travail. Je pioche de toutes parts, prenant comme type la cathédrale de Chartres, la plus belle de toutes, la plus lisible, et groupant les autres autour. Tout cela en un simple roman, se passant à Chartres, entre Durtal et l'abbé Gévresin. Ouf, voilà la carcasse, cher ami. Mais quand il va falloir dresser avec des points noirs sur du papier blanc la masse fine et énorme des cathédrales, j'en sue d'avance. Alors, comment le roman se présente-t-il ? En fait, c'est un drôle de roman, comme la plupart d'ailleurs des romans symbolistes ou décadents. C'est-à-dire que c'est un roman où ne se passe rien, en réalité. Il n'y a pas d'intrigue, il n'y a pas de femme, enfin en apparence, puisque la femme, ce sera la cathédrale, justement. Donc, il l'a dit tout à l'heure, hein, dans la citation que je vous ai donnée, il est amoureux de cette cathédrale. Donc, pas d'intrigue féminine, comme il le dira dans la préface écrite 20 ans après Harbour, donc en 1903, 19 ans exactement, il dira qu'on en a assez de ces romans d'adultère qui répètent constamment la même chose et qu'il faut absolument écrire autre chose. Donc, pas de femme. Enfin, si, il y en a une quand même, je lui en dirai un mot, mais elle n'a pas un rôle de personnage romanesque féminin. C'est essentiellement un dialogue à trois, entre 3 hommes, surtout à 2 d'ailleurs, Durtal et un ecclésiastique qui s'appelle l'abbé Plomb, comme du plomb, et qui est extrêmement savant et totalement érudit, qui sait tout sur la cathédrale, et qui va donc le guider, comme monsieur s'est fait ce matin, et lui faire visiter la cathédrale en lui en indiquant tous les détails et en lui donnant des lectures à faire. Donc lui, c'est la direction intellectuelle, si vous voulez, érudite. À côté de ça, il y a le fameux abbé Gévresin, que j'ai mentionné tout à l'heure, qui sort d'En route, hein, qui était déjà là dans En route, qui est un prêtre intelligent, chose rare aux yeux de Huysmans, et qui a tout de suite compris à Paris, quand il l'a rencontré, qu'il avait affaire à un personnage original, et qu'il fallait le prendre par le bon côté, sinon ça ne marcherait pas. Et l'abbé Gévresin a toute une technique de manipulation pour l'amener à la conversion, ça marche d'ailleurs très bien. Il a compris que c'est par l'art qu'on l'amènerait à la conversion, et pas par autre chose, et surtout pas par des sermons. Donc, l'abbé Gévresin est là. Il est moins présent que l'abbé Plomb, mais il veille à l'évolution spirituelle de Durtal, le but étant de le faire entrer au monastère. Donc, on utilise toutes les ruses, tous les moyens. Et il se trouve qu'à l'époque, et ça, Huysmans le dit dans le roman, tout est superbe à Chartres, sauf les chorales grégoriennes, qui ne sont pas tout à fait au point. Et donc ça, c'est un problème pour lui, parce qu'il manque encore, une fois de plus, le tout complet, où tout se correspond, l'architecture, la peinture, la sculpture, la musique, etc. Donc là, il est tout à fait déçu de ce qu'il entend à Chartres, et il envisage d'aller ailleurs. Alors l'abbé saute sur l'occasion pour l'aiguiller vers Solesmes. Et à la fin du roman, il part à Solesmes. En fait, ça ne durera pas très longtemps, il n'y restera pas. Mais voilà donc pour les trois personnages masculins, et là-dessus il y a un personnage féminin, il y en a deux en réalité, qui sont les deux bonnes en fait, qui sont la bonne d'une part de l'abbé Gévresin et d'autre part la bonne de Durtal, mais cette dernière on la voit à peine, tandis que la première est un personnage tout à fait haut en couleur qui s'appelle Madame Bavoil, et qui prépare pour ces messieurs des pot-au-feu, des sauces, enfin des choses qui leur remettent les pieds sur terre, mais qui sont un contrepoint tout à fait important du point de vue de Huysmans, ancien naturaliste quand même. Hein. On ne vit pas dans des régions complètement éthérées, on n'est pas en plein platonisme. Et d'ailleurs, ça correspond tout à fait également à ce qu'il entend par symbole. Il y a une partie du symbole qui est concrète. Hein. Et Madame Bavoil est bien là pour remettre les choses en place au cas où on risquerait de l'oublier. Autre élément d'histoire littéraire ou d'histoire tout court, Huysmans est très inquiet au moment de la publication de l'écriture et de la publication de la cathédrale, puisqu'on est en pleine affaire Dreyfus. Et il se dit que ça tombe particulièrement mal, évidemment, pour son livre, et qu'il y a toutes les chances que ce livre ne se vende pas et n'ait aucun succès. Mais enfin, apparemment, contrairement à ce qu'on a l'habitude d'entendre, tout le monde n'était pas si passionné ça par l'affaire Dreyfus, et la cathédrale s'est fort bien vendue. Donc, il y a eu une espèce de réaction, je ne sais pas, enfin, mais en tout cas, surprise, la cathédrale se vend admirablement. Deux écueils néanmoins. D'une part, Huysmans, c'est immédiatement, dès le jour de la publication de la cathédrale, il reçoit du papier timbré de son ministère qui le met à la porte. On n'est pas au ministère de l'Intérieur et écrivain catholique. Ça n'est pas possible à l'époque. Et ensuite, je vous en dirai un mot tout à l'heure, le clergé de Chartres se mêle de faire mettre la cathédrale à l'index, qui est quand même le comble. Donc, je vous dirai un mot de cette affaire rocambolesque tout à l'heure. Je voudrais passer tout de suite à la question la plus importante, qui est la question du symbole. Il y a un passage très important dans la cathédrale, qui en est la clé sans doute, que je vais vous lire, qui est un passage justement qui traite de la question du symbole. Nous sommes au chapitre 5. Et nous sommes donc dans une de ces discussions constantes des personnages sur la cathédrale. Attendez, je retrouve bien ma page. Bon, je le prends dans mon autre édition dont j'ai l'habitude. Alors oui, je vous signale que en préparant ça, j'ai travaillé sur ce que j'avais avant, qui est l'édition, ça a été réédité pas mal de fois, hein. Ça c'est l'édition Plomb de 1925, et elle est accompagnée d'aucune note, mais elle est accompagnée d'un index touristique, c'est extrêmement précieux, hein, qui indique les différentes parties de la cathédrale et qui renvoie aux pages du roman qui traite justement de toutes ces parties de la cathédrale. Alors j'avais demandé à Gallimard de le reproduire, mais comme j'ai déjà très largement excédé le volume de notes qu'il m'avait autorisé, ils ont laissé tomber cet index, malheureusement, et c'est comme ça. Alors, je vais retrouver le symbole ici, voilà. Je suis beaucoup plus à l'aise dans ce volume-là. Donc, conversation entre Durtal et l'abbé Plomb. Et voyant que Durtal l'écoutait attentif, l'abbé vint se rasseoir et dit « Qu'est-ce qu'un symbole ? D'après Littré, c'est une figure ou une image employée comme signe d'une autre chose. Nous autres catholiques, nous précisons encore cette définition » en spécifiant, avec Hugues de Saint-Victor, que le symbole est la représentation allégorique d'un principe chrétien sous une forme sensible. Donc déjà, Littré, contemporain de Huysmans, hein, et Hugues de Saint-Victor qui sont mis face à face. C'est pas inutile, avec une définition profane, laïque, et une définition chrétienne. Or, le symbole existe depuis le commencement du monde. Toutes les religions l'adoptaient, Et dans le nôtre, il pousse avec l'arbre du bien, dans la nôtre, pardon, il pousse avec l'arbre du bien et du mal dans le premier chapitre de la Genèse, et il s'épanouit encore dans le dernier chapitre de l'Apocalypse. Autant dire qu'il parcourt toute la Bible de l'alpha à l'oméga. L'Ancien Testament est une traduction anticipée des événements que raconte le Nouveau Livre. La religion mosaïque contient en allégorie ce que la religion chrétienne nous montre en réalité, l'histoire du peuple de Dieu, ses personnages, ses propos, ses actes, les accessoires même dont il s'entoure sont un ensemble d'images. Tout arrivait aux Hébreux en figure, a dit saint Paul. Notre Seigneur a pris la peine de le rappeler à diverses reprises à ses disciples et lui-même. Il a presque constamment, lorsqu'il s'est adressé aux foules, usé de paraboles, ce délire d'un moyen d'indiquer une chose pour en désigner une autre. Donc chose extrêmement importante et que malheureusement les catholiques ignorent très largement aujourd'hui. Cette théorie justement de la lecture figurative de l'Écriture qui consiste à lire dans l'Ancien Testament des annonces du Nouveau. Et c'est comme ça que tout catholique devrait lire l'Ancien Testament. À la limite, on ne peut pas le lire autrement. Ce qui n'exclut pas le sens littéral. C'est-à-dire que le passage de la mer Rouge n'est pas seulement un symbole. On est censé croire que cela a eu lieu historiquement, mais qu'en même temps, c'est une figure du baptême. C'est aussi une figure de la résurrection du Christ. Je prendrai un exemple qui est l'exemple canonique, qui a été répertorié par les pères de l'Église, par les théologiens du Moyen-Âge comme Hugues de Saint-Victor, et qui a été ensuite théorisé par le père de Lubac dans son très grand livre « Les quatre sens de l'Écriture ». Vous avez donc un sens littéral qui est le sens de base. Pensez par exemple à la distribution de la manne. Quand les Hébreux sont dans le désert, donc après avoir traversé la mer Rouge, ils se retrouvent dans le désert du Sinaï pendant 40 ans, il n'y a pas grand-chose à manger. Donc ils commencent à se rebeller contre Moïse, un peu désespéré, qui prie Dieu de faire quelque chose. Et Dieu agit et il envoie cette fameuse nourriture céleste que la Bible appelle la manne. Pourquoi ça s'appelle la manne? Parce que manne, ça veut dire quoi en hébreu? Donc ils voient ça tomber du ciel, ils disent manne, qu'est-ce que c'est que ça? Donc le mot est resté dans toutes les langues, la manne. Alors la manne, c'est une espèce de neige, une espèce de substance qui tombe du ciel tous les soirs, et qui, le vendredi soir, tombe en double, puisque Dieu, comme chacun sait, se repose le samedi, et donc ils ont la manne jusqu'à l'arrivée en terre promise. Donc, premier sens, le sens littéral, c'est une nourriture céleste qui nourrit les Hébreux, sinon ils seraient morts de faim. Et ensuite, vous avez le sens figuré, qui lui-même se redivise en trois. Et dans ce sens figuré, vous avez le premier, le plus important, qui est le sens dit typologique. Typologique, ça vient du grec typos. Typos en grec, c'est l'empreinte que laisse un animal dans le sable ou dans la neige, qui permet de savoir qu'il est passé. C'est donc quelque chose de prospectif. Bon. Donc, ce sont des signes qui annoncent le Christ dans l'Ancien Testament. De quoi la manne est-elle le symbole dans ce sens? Bien sûr, de l'Eucharistie, la nourriture céleste. Le deuxième sens, j'insiste sur ces deux-là, parce que Huysmans y insiste aussi beaucoup dans son livre, le deuxième sens, c'est ce qu'on appelle le sens tropologique, ça s'écrit comme ça se prononce, et ça vient de tropos en grec, qui veut dire les mœurs, la manière de se conduire. Et le sens tropologique, c'est le sens de l'évolution intérieure du chrétien, la voie intérieure qui le pousse à s'améliorer et à se rapprocher de Dieu. Donc le sens tropologique de la manne, c'est bien sûr la nourriture spirituelle, que sont les livres, que sont les homélies, qu'est la prière, etc. Et le troisième, alors je suis dans les trois subdivisions du sens figuré, hein. Les quatre c'est l'ensemble littéral plus les trois subdivisions du sens figuré. Le quatrième c'est ce qu'on appelle le sens anagogique, qui veut dire qui va vers le haut, ou eschatologique, E-S-C-H, eschatologique, qui s'occupe des fins dernières. Faites ça le même sens. Et là, la manne devient la figure du banquet céleste. Ce sont les réalités de la fin du monde, les réalités eschatologiques précisément. Donc, vous voyez que le texte que nous avons ici et que je viens de vous lire est important, puisqu'il nous dit que, en fait, le symbole, ce n'est pas du tout une invention moderne, c'est absolument consubstantiel au christianisme. Le Christ lui-même en a parlé, ou, dans un texte très célèbre, Luc 24, le passage des disciples d'Emmaüs. Quand vous vous souvenez du passage, c'est le soir de la résurrection, du jour de Pâques, l'Église lit le texte le lundi de Pâques. Et deux disciples sont en train de marcher vers une petite ville qui s'appelle Emmaüs. Ils ne sont pas au courant de la résurrection, puisqu'ils n'étaient pas à Jérusalem, et quelqu'un les suit. Et ce quelqu'un se rapproche d'eux, ils font route ensemble, ils parlent, et la nuit tombe, ils arrivent donc à Emmaüs et les deux disciples invitent ce personnage à partager le repas avec eux dans une auberge. Et ils reconnaissent le Christ au moment de la fraction du pain. Or, que leur a dit le Christ pendant la... Relisez ce chapitre, hein, c'est fondamental. Il leur a dit, il leur a lu toutes les Écritures en ce qui le concernait, ce qui le concernait dans les Écritures. Donc, toute une lecture de l'Ancien Testament, faite par le Christ lui-même, on n'a pas le contenu, hein, à l'adresse de ses disciples. Et chez saint Paul, c'est dans la première épître aux Corinthiens que vous avez la fameuse phrase « Tout leur arrivait en figure ». Aux Hébreux, tout arrivait en figure. Alors, je continue la lecture. Le symbole provient donc d'une source divine. Ajoutons maintenant, au point de vue humain, que cette forme répond à l'un des besoins les moins contestés de l'esprit de l'homme, qui éprouve un certain plaisir à faire preuve d'intelligence, à deviner l'énigme qu'on lui soumet, et aussi à en garder la solution résumée en une visible formule, en un durable contour. Saint Augustin le déclare expressément « Une chose notifiée par allégorie est certainement plus expressive, plus agréable, plus imposante que lorsqu'on l'énonce en des termes techniques. » Notez l'insistance sur le caractère concret du symbole. Une visible formule, un durable contour. Dans la citation de saint Augustin, c'est quelque chose d'expressif, d'agréable, d'imposant, quelque chose qui s'impose au sens. Hein. Le symbole, c'est fait pour les sens. Et c'est à partir de là, l'impression des sens, que l'on en déduit un sens pour l'intelligence. Alors la citation de saint Augustin, elle est dans une épître, hein, vous avez les références dans le livre. Extrêmement intéressant juste après, voilà que Durtal fait un aparté, en fait il pense, il ne dit pas ce que je vais vous lire, il le pense, mais bien entendu le lecteur lui le voit tout aussi bien que ce que vient de dire l'abbé. C'est aussi l'idée de Mallarmé, et cette rencontre du saint et du poète sur un terrain tout à la fois analogue et différent est pour le moins bizarre, pensa Durtal. Donc oui, cette espèce de collage, si je puis dire, de Mallarmé. Comme tout à l'heure, on avait Littré et Hugues de Saint-Victor. Maintenant, on a Mallarmé sur Saint-Augustin. Alors, je vais vous lire les textes de Mallarmé sur le symbole. Mallarmé a abondamment réfléchi sur la question du symbole. Et vous avez dans deux textes de Mallarmé la réponse à l'enquête de Jules Huret, H-U-R-E-T, d'une part. Et le texte qui s'appelle « La musique et les lettres, une réflexion sur le symbole » qui a irrigué tout le mouvement symboliste. Donc, je vous lis Mallarmé, vous trouverez ça dans les Pléiades Mallarmé. Nommer un objet, c'est supprimer les trois quarts de la jouissance du poème qui est faite de deviner peu à peu. Le suggérer, voilà le rêve. C'est le parfait usage de ce mystère qui constitue le symbole. Évoquer petit à petit un objet pour montrer un état d'âme ou inversement, choisir un objet et en dégager un état d'âme par une série de déchiffrements. Phrase magnifique, qui ne s'applique pas totalement à notre objet, puisque l'état d'âme, ce n'est pas quelque chose qui relève du Moyen-Âge. Hein. Ce n'est pas des états d'âme qu'on va chercher à Chartres, c'est des correspondances. Bon, donc ça, l'état d'âme, c'est pour le symbolisme. Bon, Mallarmé évoque le processus du poète, hein, qui cherche des symboles pour dire des réalités. Donc, proposer à son lecteur ce petit exercice d'énigme ou de déchiffrement. Nous, c'est le contraire. Nous sommes en face de la cathédrale et donc des choses figurées, et c'est à nous d'essayer de comprendre ce qu'elles veulent dire. Oui, c'est l'autre processus. Mais il est évident que, pour Huysmans, les deux processus sont tout à fait liés. Et que c'est cette grille de déchiffrement, justement, mais de déchiffrement tout à fait plaisant, agréable et enrichissant, qu'il va appliquer à la cathédrale. Alors je continue un petit peu le passage. Ainsi continua l'abbé, s'est-on dans tous les temps servi d'objets inanimés, d'animaux et de plantes pour reproduire l'âme et ses attributs, ses joies et ses douleurs, ses vertus et ses vices. On a matérialisé la pensée pour la mieux fixer, pour la rendre moins fugace, plus près de nous, ostensible, presque palpable. De là, ces emblèmes de cruauté et de ruse, de mansuétude et de charité, incarnés dans une certaine faune, personnifiés dans une certaine flore, ce qui concerne surtout les chapiteaux dans les cathédrales. De là, ces sens spirituels attribués aux pierreries et aux couleurs. Attestons encore qu'au temps des persécutions, au début du christianisme, ce langage secret permettait de correspondre entre initiés, de se confier un signe de reconnaissance, un mot de ralliement que l'ennemi ne pouvait comprendre. De là, ces peintures déterrées dans les catacombes, l'agneau, le pélican, le lion, le pasteur signifiant le fils, le poisson, l'ictus, dont les cinq lettres sont l'abrégé des mots de la phrase grecque « Jésus, fils de Dieu, sauveur », et s'assimilant par contre-coup aux fidèles, à l'âme conquise, péché dans la mer du paganisme, etc. Donc vous avez tout ce développement sur le symbole, et l'idée que la cathédrale n'est pas seulement un édifice de pierre, mais qu'elle est un immense livre plein de symboles, plein d'images et de symboles qu'il va s'agir de déchiffrer. Donc le symbole, l'épourvissement, c'est une sorte d'instrument idéal, puisque ça lui permet justement de garder ses racines réaliste et naturaliste, puisque le symbole est nécessairement quelque chose de concret, et en même temps, bien sûr, d'y ajouter une signification qui est une signification proprement religieuse. Donc, il s'appuie sur la grande idée du Moyen-Âge, hein, qui fait que se correspondent ce que le Moyen-Âge appelait, c'est chez Saint Bonaventure, essentiellement le liber creaturae, le livre de la créature, c'est-à-dire de la création. Hein. Creatura, ça veut dire la création, donc tout ce qu'il y a dans le monde, hein, tout ce que Dieu a créé dans la Genèse. Et d'autre part, le liber scripturae, le livre de l'écriture, hein, qui est un autre recueil de symboles, et les deux coïncident, se rejoignent et forment la matière de la cathédrale. Alors, je vais vous donner quelques exemples, mais le livre en est plein. Je vois que le temps a déjà tourné. Donc, pour la symbolique des couleurs, par exemple. Ah oui, non, des exemples donc de symboles. Bon, je ne sais pas si je vais vous en donner beaucoup si on a le temps, mais vous en avez plein, des énumérations, si vous voulez, d'animaux, de plantes, enfin de toutes sortes de choses symboliques. Voyons, je vais essayer de vous trouver un exemple. Oui, la citation de Saint Paul, je ne vous ai pas donné la référence exacte, c'est 1 Corinthiens 10, 11, très important comme citation. Le bestiaire, alors, par exemple, page 440. Le coq fit-il est la prière, la vigilance, le prédicateur, la résurrection, car le premier, il se réveille dès l'aube. Le paon qui est doté, suivant un vieil auteur, de voix de diable et de queue d'ange, est un réceptacle d'idées contradictoires. Il implique l'orgueil, l'immortalité, selon saint Antoine de Padoue, et aussi la vigilance, à cause des yeux qui parent ses plumes. Le pélican est la figure de la contemplation et de la charité, de l'amour, suivant sainte Madeleine de Pazzi. Bon, vous avez des tas de pages de la cathédrale qui sont des catalogues, hein, il faut bien dire, des catalogues de symboles qu'il va chercher à droite et à gauche. Bon, vous avez la même chose pour la typologie végétale. Alors là, il y a un petit ajout assez amusant à propos de la typologie végétale. Pour l'orgueil, nous avons la citrouille qui fut jadis adorée dans la ville de Sicyone, telle qu'une déesse. Elle revêt tour à tour l'apparence de la fécondité et de l'orgueil. De la fécondité à cause de ses nombreuses semences. Il y a toujours un lien, hein, le symbole n'est jamais gratuit. C'est-à-dire que ça part toujours d'un détail concret qui fait penser à autre chose. Et de sa facilité à croître. Donc c'est à cause de ses nombreuses semences et de sa facilité à croître que le moine Walafrid Strabo célèbre de glorieux hexamètres pendant tout un chapitre de son poème « La citrouille ». De l'orgueil à cause de l'importance de son énorme tête creuse et de son enflure. Nous avons encore le cèdre, que d'accord avec saint Méliton, Pierre de Capoue taxe de superbe. Alors les personnages vont se mettre en tête, enfin c'est Durtal qui a cette idée, de fabriquer un jardin symbolique dans un petit jardin de Chartres, et donc de faire un jardin des vices, un jardin des vertus, etc. Et Huysmans, quand il sera à Ligugé, ça ne durera pas longtemps, mais il aura quand même le temps d'acheter une maison et de la faire aménager, aura également l'idée de faire la même chose. Alors je vous lis le passage d'une lettre où il évoque cette fantaisie, lettre adressée à un bénédicain de Solesmes. Après m'être livré à des essais de flore symboliques sur les chapiteaux de la maison, je veux préparer maintenant le jardin liturgique auquel nous adjoindrons un petit jardin médicinal d'après Walafrid Strabo. Il y a de quoi s'amuser, comme vous voyez. Inutile de vous dire qu'on me considère dans la Jean Poitvine comme légèrement toqué. Le malheureux sculpteur qui dut créer des saints avec des fleurs de pierre est parti complètement ahuri, déclarant que jamais dans sa vie on ne lui avait fait exécuter des démences pareilles et laisser aussi peu de liberté dans ce qu'il appelle son art. Ça le changerait des chapiteaux ordinaires des églises dont il est un spécialiste. Donc, alors la symbolique, elle est aussi appliquée aux personnages des porches, en particulier de Chartres. Hein. Alors, Huysmans suit la symbolique ordinaire, si je puis dire, qu'il voit par exemple pour le porche nord dans les personnages de l'Ancien Testament, Melchizedek, Abraham, Moïse, bon, la symbolique ordinaire. Et comme il est romancier, sur les personnages dont l'identité n'est pas absolument certaine, par exemple les reines, les figures de femmes là, du porche royal, il y a des embryons, si vous voulez, de petits romans qui se préparent, qui se présentent et qui donnent évidemment un charme particulier au roman. Je vous en lis un passage donc à propos du porche royal et de ses figures féminines énigmatiques. Attendez, c'est pas ça. Non, alors attendez, j'ai pas le bon passage, je voudrais pas qu'on perde du temps. Je vais essayer de le trouver là. Alors, portant, charge. Voilà, Portail Royal. Oui, 378, pardon. Oui, alors il y a une statue je résume parce que je ne retrouve pas ma page. Bon, par exemple, il y a une statue dont il dit qu'elle est. C'est la première à. Non, ce n'est pas la première, c'est la dernière à droite à l'intérieur du porche central, où il dit qu'elle a. Là, il y a une sorte de plaquage naturaliste, qu'elle a la figure d'une bonne, comme les héroïnes de ses premiers romans. Et alors, il y en a une sur laquelle il jette son dévolu, c'est dans la partie droite, vous pouvez retourner voir tout à l'heure du porche central. Alors d'abord, il y a un personnage masculin à gauche dont il estime qu'il ressemble à Verlaine. Alors il y a tout un développement sur la face de Verlaine qui se trouve sur la cathédrale de Chartres. Et ensuite, vous avez un personnage féminin qui est particulièrement beau, effectivement, effilé, magnifique, et dont la tradition, paraît-il, a pensé que c'était Berthe au grand pied, enfin une des traditions, et Huysmans récuse cette interprétation, et voit en elle une figure parfaitement idéale, une figure justement de l'âme, si vous voulez, une figure totalement spirituelle. Donc vous avez pour chacun des personnages une sorte de petit roman qui s'ébauche et qui donne le ton, si vous voulez, à l'ensemble du livre. Alors, pour finir, ce que j'ai appelé le roman d'une âme ou le sens profond de ce roman. En fait, Durtal ne se contente pas de se promener dans la cathédrale, de la déchiffrer, de lire des tas de choses, mais il prie également. Et il est tout à fait impressionné, notamment par les gens du peuple, hein, les gens très modestes, les habitants de Chartres, les femmes surtout, qui viennent prier dans cette cathédrale. Il fait de longs séjours dans la crypte auprès de Notre-Dame de Sauterre et il y a de très beaux passages où effectivement cette piété du personnage, tout à fait inattendue quand on songe au premier roman, s'exprime de manière tout à fait visible et tout à fait convaincante. Et alors, il y a également une évolution dans ce roman, donc dans ce roman sans intrigue, si vous voulez, qui est constitué de promenades et de réflexions sur la cathédrale, une sorte d'évolution qui fait qu'à la fin du roman, la cathédrale va véritablement s'identifier à la Vierge. C'est-à-dire qu'il y aura une espèce de. Les effets métonymiques, tous les effets métonymiques du début, qui consistent à prendre des morceaux de la cathédrale pour les expliquer, vont tous s'unifier et devenir justement une sorte d'immense image de la Vierge. Alors, attendez, je voudrais trouver là encore des passages. Encore, je vais le trouver là. Ça part de la contemplation du fameux vitrail, hein, de la grande verrière, et à partir de là, vous avez cette extension. Voilà, c'est ce passage-là. On est tout à fait à la fin du livre. Il vient d'évoquer les apparitions de la Vierge, alors fréquentes au XIXe siècle, et notamment celles de Lourdes et celles de la Salette. Eh bien, moi qui ne suis point un visionnaire et qui dois avoir recours à mon imagination pour me la figurer, il me semble que je l'aperçois dans les contours, dans l'expression même de la cathédrale. Les traits sont un peu brouillés dans le pâle éblouissement de la grande rose qui flamboie derrière sa tête, telle qu'un nimbe. Elle sourit et ses yeux tout en lumière ont l'incomparable éclat de ces clairs saphirs qui éclairent l'entrée de la nef. Son corps fluide s'effuse en une robe candide de flammes, rayée de cannelures, côtelée, ainsi que la jupe de la fausse Berthe, la fameuse statue. Son visage a une blancheur qui se nacre et la chevelure, comme tissée par un rouet de soleil, vole en des fils d'or. Elle est l'épouse du cantique Pulchra ut Luna, Electa ut Sol. La basilique où elle réside et qui se confond avec elle s'illumine de ses grâces. Les gemmes de ses verrières chantent ses vertus. Les colonnes minces et frêles qui s'élancent d'un jet, des dalles jusqu'au comble, décèlent ses aspirations et ses désirs. Le pavé raconte son humilité. Les voûtes qui se réunissent de même qu'un dais au-dessus d'elle narrent sa charité. Les pierres et les vitres répètent ses antiennes. Et il n'est pas jusqu'à l'aspect belliqueux de quelques détails du sanctuaire, jusqu'à cette tournure chevaleresque rappelant les croisades, avec les lames d'épée et les boucliers des fenêtres et des roses, le casque des ogives, les cottes de mailles du clocher vieux, les treillis de fer de certains carreaux, qui n'évoquent le souvenir du capitule de Prime et de l'antienne de l'Aude de son petit office, qui ne traduisent le terribilis ut castrorum acquies ordinata, qui ne relatent cette privauté qu'elle possède quand elle le veut, d'être ainsi qu'une armée rangée en bataille, terrible. Mais elle ne le veut pas souvent ici, je crois, aussi cette cathédrale est-elle surtout le reflet de son inépuisable mansuétude, l'écho de son impartible gloire. À vous, il vous sera beaucoup pardonné parce que vous l'aurez beaucoup aimé, s'écria Madame Bavoil. Donc voilà, le mot final du roman, c'est cela. Hein. Et le tout dernier mot du roman, c'est encore Madame Bavoil qui a la parole. Elle joignit les mains, murmurant « Tout cela dépend de vous. Assistez-le dans sa pénurie. Pensez qu'il ne peut rien sans votre aide. Bonne tentatrice, Notre-Dame du Pilier, Vierge de Sous-Terre. » Donc en fait, le roman, qui est un faux roman, hein, qui est beaucoup plus une méditation qu'un roman, mais une méditation où Huysmans réunit en fait tous ses intérêts. Hein. L'intérêt intellectuel, enfin, c'est avant tout un intellectuel, c'est quelqu'un qui aime réfléchir, déchiffrer, comprendre. L'intérêt spirituel, incontestablement, et l'intérêt d'écriture, parce que La cathédrale est un roman très écrit, d'une écriture difficile. C'est bien pour ça que j'ai dû faire un glossaire. Il y a un mot à toutes les pages, et peut-être plus, que le lecteur moderne ne comprend pas, qui est un mot technique, qui est un mot du vocabulaire des arts et métiers, un mot du vocabulaire théologique, enfin, qu'il manipule avec beaucoup de dextérité. Il y a toutes ces références, alors, qui s'accumulent à la fois au Père de l'Église, aux théologiens du Moyen-Âge, puis à des lectures plus modernes qu'il a faites. Naturellement, il ne s'encombre pas des références, donc... si on s'interroge, on est obligé d'aller les chercher. Il y a tout ce côté, si vous voulez, très savant et en même temps humoristique. C'est-à-dire que Huysmans n'a pas pour but de donner une leçon d'érudition à son lecteur, mais il y a en même temps toute une part d'humour. Par exemple, je vais vous en donner un dernier exemple. C'est d'ailleurs ça qui a déplu à certains hommes d'Église, hein, qu'on traite avec un certain humour des choses qui leur semblent évidemment relever de ce qu'il y a de plus sérieux. Et alors il y a en particulier au chapitre 8, vous avez la description de la cérémonie d'intronisation du nouvel évêque de Chartres. Et alors là, il s'en donne à cœur joie, évidemment. Il décrit la procession, il décrit la manière dont les gens sont habillés, et une espèce d'anticléricalisme de l'intérieur, si vous voulez, se déchaîne à ce propos. Et c'est ça qui lui a valu les premières attaques qui ont failli très très mal tourner. Heureusement qu'il a été bien soutenu, parce que sinon... Il se serait trouvé tout à fait embarrassé. Donc là, c'est le chapitre que je vous ai lu tout à l'heure à propos de la définition du symbole. Donc ensuite, il y a toute une série d'équivalences sur le symbole. Et on en vient à tous les objets du culte liturgique. Et là, on en est aux pincettes pour moucher les lampes, c'est-à-dire les pincettes qui servent à éteindre les cierges. Les pincettes pour moucher les lampes sont les paroles divines auxquelles nous coupons les lettres de la loi. Et ce faisant, nous révélons l'esprit qui lui. Et il ajoute, les pots dans lesquels on éteint les mouchures des lampes sont les cœurs des fidèles qui observent la loi à la lettre. C'est la démence du symbolisme, s'écria Durtal. C'en est en tout cas l'excès méticuleux. Mais si les pincettes ainsi envisagées sont pour nous pour le moins bizarres, si même la théorie de l'encensoir peut paraître bien fluette en son ensemble, avouez cependant qu'elle est spontanée et charmante, et précise lorsqu'il s'agit de la chaîne qui entraîne, en l'enlevant dans un nuage de fumée, la portion supérieure du vase et imite ainsi l'ascension de notre Seigneur dans les nues. Bon. Donc vous voyez, quand il y a des définitions qui ne sont plus acceptables par le lecteur moderne, immédiatement l'humour vient servir de rempart, en quelque sorte, pour faire passer justement des définitions et montrer qu'elles ont quand même quelque chose de cohérent, même si dans leurs détails et leurs minuties, elles ne sont plus véritablement acceptables. Voilà, mais écoutez, je vous invite à lire Huysmans en général, La cathédrale en particulier, et puis à vous promener dans la cathédrale de Chartres avec ce livre à la main. Merci beaucoup.